Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Pardon, on commence sur un immense éclat de rire. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. On est ensemble, 11h midi, vous le savez, pour commenter l'actualité avec vous, 0826 300 300. Ils ont déjà commencé à bavarder. Allez, ils sont dissipés aujourd'hui, hein. Quand il n'y a pas de femmes sur le plateau,
c'est
la récré. Vous posez vos portables parce que nos auditeurs n'aiment pas ça et ils ont bien raison. Bruno Pomard est avec moi, maire de Belleflou. Vous êtes un des anciens fondateurs du RAID. Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Et Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence de communication Coriolink. Merci Bonjour. D'être là. À vous. Plusieurs sujets, la mortalité routière en forte hausse, quelle en est la cause? Les 80 km ne servent-ils à rien? La faute aux destructions de radars? On attend vos réactions, 0826 300 300. Puis on pourra parler aussi de ces SUV, de ces grosses voitures qui sont pointées du doigt, et puis ce sujet qu'on voulait traiter sur l'interdiction des publicités, c'est un député qui avait proposé ça, bref, beaucoup de sujets autour des voitures. Faut-il reconnaître la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger, la porte ouverte à la GPA en France, une circulation permettrait aux parents qui ont eu recours à la GPA d'être parents automatiquement sans plus passer par le tribunal. Et puis la préférence nationale, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'en temps de crise pour les emplois, c'est une bonne chose? C'est un sondage qui nous dit que vous y êtes majoritairement favorable. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Éric, on va commencer avec vous. C'est oui. un coup de cœur, comme d'habitude.
C'est un coup de cœur. Je savais que Bruno oui. Pomard venait, donc je fais un coup de cœur régionaliste.
Oui. Ah, quand même.
En faisant l'éloge d'un très bon article qu'il y a eu dans le journal La Montagne, car moi j'aime la presse quotidienne oui. régionale, oui. sur le burn-out du maire d'Arennes. Oui. Ah oui, alors c'est bien. Où Arennes, Bruno?
Aucune idée.
Ah bah voilà. C'est à côté de Duroy.
C'est dans la montagne.
C'est dans la montagne,
c'est
sûrement.
Dans la Creuse.
Dans la Creuse, ah oui.
Dans l'Est creusois. Oui. Et en fait, ce maire qui est une petite commune de quelques centaines d'habitants, le maire était éleveur de moutons. Il a gagné les élections et il a été complètement pris à la gorge par la complexité administrative de sa tâche à laquelle il ne s'attendait pas. Et notamment la lenteur des services préfectoraux sur tous les dossiers qu'il avait. Notamment, il avait un projet qu'il voulait mettre en place. La préfecture tardait à donner la subvention, donc il a fini par faire des faux pour faire accélérer le dossier. Et puis, il a pris conscience de son erreur et il a démissionné en plaidant le burn-out. Ce que je crois ouais. Vrai, et je voulais quand même saluer la bienveillance avec laquelle cet article a été écrit, parce que je pense qu'il faut, on ne dit pas assez qu'on entend à la US, il y aura ouais. beaucoup moins de candidats aux municipales parce qu'il y a une crise des vocations, ouais. mais on ne dit pas assez que c'est aussi produit par la lourdeur des services de l'État qui considèrent que les maires sont à leur service et non pas l'inverse, et ça devient une vraie problématique dans la gestion des collectivités locales. Ouais. Mais ce disant, je suis inquiet puisque je vois Nicolas Corato opiner. Et donc, pour que Nicolas soit d'accord avec moi, c'est que j'ai dû dire une connerie.
Mais vous avez raison. Il y a quoi, 50% des maires, c'est ça, qui ne souhaitent pas se représenter.
Sur les petites communes. Hein, mais tu as tout à fait raison parce qu'on n'a pas de service juridique. On arrive. Moi, j'ai une secrétaire à mi-temps dans mon petit village. C'est compliqué, malgré qu'elle travaille très bien, qu'elle est très compétente, on a de véritables problématiques, et c'est vrai que la prise en main par les communautés de communes, bon ça à la limite, pourquoi pas, mais l'État, encore une fois, régalien, l'État toujours là à nous mettre la main dessus, et surtout à nous mettre des notes, des procès-verbaux, en fait tout un tas de choses qui fait que le métier ou la fonction de maire est compliquée.
Vous allez vous représenter ?
Oui. Ouais. Et avec, vous savez, même dans les villages, on a même de l'opposition. Dès qu'on veut créer aussi, il y a certains villages qui restent un petit peu sur leur position. Et ouais. dès qu'on veut créer, je m'en rends compte au bout de 5 ans, parce que je veux faire un très beau domaine d'aventure sur mon secteur, là-bas, près de la Ganguise, ça pose des problèmes, effectivement, avec nos électeurs. Pourtant, ils ne sont pas nombreux, mais ouais. voilà.
Et dans le cadre de l'opération séduction qu'a lancée ouais. Emmanuel Macron à l'endroit des élus locaux, dans le prochain projet de loi qui va plus particulièrement concerner les élus locaux, Sébastien Lecornu, je crois, a annoncé oui. que justement, ces problèmes juridiques que pourraient rencontrer les maires et qui pourraient eux-mêmes les mettre en porte-à-faux par rapport à l'autorité judiciaire seraient peut-être financés ou accompagnés un peu mieux mmh. par l'État mmh. à l'avenir. Mais qu'est-ce que veut dire l'avenir dans la complexité administrative française?
Gros débat. Pour vous, Jackie, c'est un coup de cœur également?
Alors moi, c'est beaucoup plus sérieux que celui d'Éric, bien évidemment.
C'est pas simple pour les maires.
Non, mais blague à part, c'est très sérieux. Les soldats morts en opération extérieure auront bientôt leur monument.
Oui.
Et c'est à l'initiative qui a été assez peu rappelée du général Torette, qui est l'ancien patron de l'armée de terre, qui est quelqu'un qui est extrêmement dévoué, qui a fait énormément de choses pour les soldats sur le terrain. C'est un coup de cœur et en même temps c'est un coup de gueule parce que il ne m'autoriserait pas à raconter la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire tous les problèmes qu'il a eu pour l'installer, tous les gens très connus qui en public, quand il s'agit de défendre les forces de l'ordre, où les soldats disent que c'est très bien, et quand il s'agissait d'installer ce monument au bas de chez eux, ont fait bouger l'ensemble de leurs relations pour éviter ça. Et ça lui a pris près de 15 ans pour installer quelque chose. Quand il m'a raconté l'anecdote, ça m'a semblé hallucinant. Quand j'ai vu que l'information était soulignée ce matin dans un journal, je me suis permis de la relayer. Voilà. Et juste pour finir peut-être sur un trait d'humour, sachez qu'en France, quand vous mourrez au combat, ça n'est pas reconnu comme un accident professionnel. En revanche, pour ceux qui ont suivi les médias ces derniers jours, si jamais entre midi et deux, vous allez faire l'amour à votre maîtresse dans un hôtel et que vous décédez d'une crise cardiaque, c'est reconnu comme un accident professionnel. C'est assez marrant, je n'ai pas de leçon à donner, mais voilà.
Pourquoi ça a été reconnu comme accident professionnel? Parce que c'était pendant les heures de travail?
Voilà, alors parce que
même pas au bureau.
Le temps de trajet est considéré comme faisant partie de l'obligation. Travail, voilà. Je sais pas, jugement de ma part, pourquoi il fallait pas le reconnaître.
Deux poids, deux mesures.
Juste pour, pour rebondir sur ce que disait Eric, sur parfois la complexité ou l'aspect boulgakovien de l'État français et du droit social.
Nicolas Corato, on a un peu ri au début de cette émission parce que vous voulez parler du livre de Georges Buisson, donc qui est le fils de Patrick Buisson, conseiller de Nicolas Sarkozy, dont on a entendu parler en particulier au moment des enregistrements qu'il a fait, il a enregistré Nicolas Sarkozy ainsi que beaucoup de gens du gouvernement, et donc son fils publie demain un livre chez Grasset, un livre qui fait 600 ou 700 pages. 700 pages que je n'ai pas pu avoir, et je vous ai dit vous voulez en parler Nicolas, mais vous l'avez lu, vous m'avez répondu oui je l'ai eu, donc j'étais
étonnée. C'est
le même
lui qui l'a écrit.
Puisque effectivement il y a un embargo jusqu'à demain, il y a eu quelques extraits qui ont été publiés par Le Point.
Alors très honnêtement je ne l'ai pas terminé, parce que c'est un sacré pavé, mais c'est un livre, d'abord c'est un vrai livre, c'est-à-dire qu'il n'est pas édité chez Grasset uniquement par opportunité, il y a un vrai style, il y a un vrai récit, d'ailleurs on est parfois à la limite et c'est peut-être pour ça qu'il sera critiqué du roman, mais c'est le parcours d'un homme, le parcours d'un homme et de son fils.
Est-ce que c'est lui qui l'a écrit ?
Ah ça j'en sais rien,
apparemment c'est lui, il a travaillé avec son père à la chaîne Histoire.
Qu'il ait des choses à dire c'est une chose, moi je les connais tous les deux, c'est un garçon très cultivé. La question est-ce qu'il l'a écrit lui-même ? Parce que certaines rumeurs disent que...
D'autres disent que c'est un coup monté. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous attraquez Patrick Buisson, la théorie du complot revient.
Ça fait trois ans que ce livre est annoncé.
Oui, et ça fait trois ans qu'il fait peur à Patrick Buisson. Et ça fait trois ans que Patrick Buisson prépare... Pas en termes journalistiques, parce que finalement, on n'apprend pas factuellement des choses qu'on ignorait sur le parcours de Patrick Buisson. Ce qui est intéressant, c'est, à mon avis, c'est la première fois...
Il révèle qu'il était à Occident.
Oui, mais c'est pas une grande surprise non plus. On l'imaginait pas aux jeunesses communistes non plus, Patrick Buisson.
Et alors, c'est quoi? C'est un coup de cœur ou un coup de gueule?
Coup de cœur, parce que c'est un rare témoignage de l'intérieur de cette extrême droite moderne qui se construit depuis 30 ans en France, du parcours d'un homme qui est aussi totalitaire dans ses prises de position que dans la manière de gérer sa famille. C'est rare ces témoignages de l'intérieur de ce milieu-là. C'est un milieu quand même concentré, haineux, des passions tristes, morbides, c'est pas joyeux.
C'est pas du moins,
je veux dire, le militantisme à l'extrême droite, ça vous emmène pas quand même vers la joie intégrale.
Et on sent
quand même une souffrance, le parcours d'une souffrance à la fois du père qui devient ce fameux ennemi. Et d'ailleurs, en fait, le titre est assez intéressant parce qu'en lisant la première partie de l'ouvrage, on se demande qui est l'ennemi, non? Est-ce que c'est le fils ou est-ce que c'est le père? Et le choix est laissé au lecteur d'une certaine manière. Non, c'est un vrai témoignage qu'on n'a pas sur ce milieu d'extrême droite, sur un homme finalement borgne au pays des aveugles, qui fait son parcours, qui se rêve grand philosophe, grand penseur, qui finit apprenti maître chanteur avec un président de la République.
Avec un côté un peu plutôt aussi.
On peut être les deux aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est assez rare comme témoignage, et je pense que c'est très intéressant de rentrer, d'une certaine manière, avec toute la subjectivité de l'auteur, dans l'intimité de cette extrême droite qui aujourd'hui a gagné une part de la bataille culturelle grâce à quelqu'un comme Patrick Buisson.
Mais Bruno Pommard disait, c'est pas moi que c'est quand même. Il y a quand même cet aspect des relations extrêmement compliquées avec son père qui est le déclencheur de ce livre aussi. C'est-à-dire que c'est aussi un règlement de compte. C'est aussi un règlement de compte. Les deux sont fâchés.
Et je pense
le livre s'appelle L'ennemi.
Ouais, c'est pas facile d'être le fils de Patrick Buisson. Voilà.
Ce qui est intéressant de ce qu'il en dit, c'est qu'il raconte quand même comment Patrick Buisson est à l'origine de l'ensemble des courants de l'extrême droite depuis 40 ans.
C'est vrai, ouais.
Et ça, c'est assez étonnant. Et il dit que l'ennemi, finalement, c'est ni lui ni le père, mais c'est la manière dont il a construit son opposition aux autres. C'est-à-dire qu'il a toujours considéré que les autres étaient l'ennemi et que toutes ces relations sont fondées sur l'opposition. Et donc, c'est l'autre. Et c'est vrai que Mitterrand disait « Donnez-moi 10 ou 100, je ne me souviens plus personne, et je conquiers la France ». Finalement, l'ensemble de l'extrême droite s'est construite avec ce maurassien extrêmement cultivé qu'est Patrick Buisson. Et il détaille tous ces aspects-là. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue la construction des idéologies et de ceux qui aiment la politique, le bouquin doit être assez passionnant.
Il a dit ce matin, c'est un deuil que je devais faire. Il peut y avoir des poursuites en justice, mais je ne les crains pas. Il dit également qu'il était sous l'emprise de son père et que lui-même a enregistré son père. Il dit, lui, c'était pour faire du chantage. Moi, c'était pour me défendre.
Quand je vous parle de passion triste, c'est vraiment d'une tristesse absolue.
Allez, le coup de cœur de Bruno Pommard.
Un truc plus marrant, mais... Vous connaissez Chaotique 747 ? Il n'y a pas de spécialiste du rap ici.
Non, on a essayé de le trouver.
Vous manquez de culture, les amis.
Mais on n'a pas trouvé. Ouais. Chaotique
747. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que d'abord, il a été boycotté par une chaîne musicale. Parce qu'on m'a dit de ne pas dire le nom. Mais Ah bon ?
Oui.
Skyrock, c'est.
Ouais.
Voilà. Bono, il s'appelle, je crois, le patron, Laurent Bono.
Je sais pas.
J'aimerais bien qu'il appelle d'ailleurs. Tiens, on pourrait discuter avec lui. Parce que ce jeune artiste qui fait du rap, il y en a plein. Il fait rap, pour moi, qui est intelligent, ça fait un petit peu mettre le reste du rap en marge. Mais il parle, dans ses chansons, c'est très positif, il positive tout ce qui est action de la police, respect de la police, des pompiers, des forces de l'ordre, etc. Et ce gars-là, il est boycotté par des chaînes musicales. Et j'aimerais bien que Sud Radio le reçoive, par exemple,
parce que je trouve ça inadmissible.
Ils ont aussi manqué de respect à nos anges. À l'encre rouge, j'écris mes rimes, refait un monde étrange. Pardonnez-les, leur bêtise me dérange. Acceptez mes louanges, je ferai tout pour que le monde change. Ils ont osé manquer de respect à nos anges. À l'encre rouge, j'écris mes rimes, refait un monde étrange. Pardonnez-les, leur bêtise me dérange. Acceptez mes louanges, je ferai tout pour que le monde change.
Voilà, soutien aux forces de l'ordre. Donc les anges, ce sont les forces de l'ordre.
Ouais, c'est pas cocorico, parce que j'ai été 36 ans policier, mais je trouve que ça, c'est positif. On a besoin de ça dans cette société. On parle de... Il y a le grand plan des incivilités de Castaner, et je l'ai rencontré ce week-end d'ailleurs, parce que j'ai fait une table ronde avec lui, sur ces sujets-là. Je crois que tout le monde doit s'y mettre, et même ces rappeurs, qui souvent nous balancent tout et n'importe quoi sur les radios. Ouais. Je crois que c'est important d'avoir ce genre de personnage.
Mais c'était évidemment pas... c'est pas évidemment dans le ton de... dans les propos du rap.
La ligne éditoriale, ça ne doit pas faire gagner d'argent aux chaînes.
Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite avec vous. On va parler sécurité routière. Et puis, on va continuer. Je voulais vous faire réagir sur deux sujets, en particulier ce qui se passe au tribunal de Bobigny. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de juger pour les magistrats, de juger des délinquants de Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a des pressions terribles. Donc, zone de non-droit dans certains quartiers, et maintenant, zone de non-droit également dans les tribunaux. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va revenir sur les chiffres de la mortalité en forte hausse, mortalité due aux accidents de la route, la faute à qui. Mais quelques mots quand même sur cet article hier absolument effarant dans Le Parisien à propos donc de ces pressions de corruption de jurés à Bobigny et avec le président de la cour d'assises qui s'inquiète de la difficulté de juger les criminels en Seine-Saint-Denis. Bruno Pommard, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y avait la police qui était impuissante. Maintenant, une fois qu'on les a arrêtés et qu'ils comparaissent, parce que là, ça fait référence à une affaire où des délinquants risquaient jusqu'à 18 ans de réclusion, ont été acquittés. Le verdict a été donné, a fuité dans la salle avant, et les jurés ont visiblement été corrompus avant.
Ouais, c'est la vérité vraie, comme on dit. C'est terrible, mais c'est comme ça. Ouais. Il faut savoir que le tribunal de Bobigny, c'est depuis longtemps d'ailleurs, où les pressions sont constantes sur les tribunaux qui plaident à chaque fois des cas de jeunes qui sont souvent effectivement des délinquants, sur les stupes et autres. Mais c'est vrai que la police est en nombre. généralement, pour protéger le tribunal. Enfin, ça devient, ouais, effectivement, ça devient inquiétant. À mon avis, on devrait peut-être complètement sortir de...
Dépayser,
oui, merci.
Dépayser, ouais.
Ce genre de jugement, comme ça, au moins, ça... Au niveau de sécurité pour les juges, je pense que ça serait la meilleure des choses. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème.
C'est sur ces sujets où on attendrait un vrai garde des Sceaux. Ouais. C'est-à-dire qu'elle nous raconte toujours qu'elle ne donne pas d'instruction individuelle sur les dossiers, très bien, mais elle a la possibilité de créer une politique pénale et développer le dépaysement de certaines affaires dans certains tribunaux dont on sait qu'il y a des pressions qui s'exercent sur les jurés, mais on en parle aussi moins sur les magistrats.
Tout à fait.
Je ne parle pas des policiers, bien entendu, puisqu'ils sont en amont, mais quand même, on parle aussi de pression sur les magistrats. Le dépaysement, c'est une arme qu'a le garde des Sceaux, qu'a la chancellerie, pour éviter que des procès, effectivement... Bon, ce n'est pas la première fois que des jurés sont corrompus en France. Hein. Il y a eu plusieurs affaires dans le passé. Je ne sais pas si statistiquement, c'est compliqué, ça se développe, mais on sait... En Corse, on s'est dépaysé. En Corse, il y a des procès qu'on ne fait pas en Corse, qu'on fait ailleurs, pardon, de mettre les pieds dans le plat. Et en Seine-Saint-Denis, il faudrait que la chancellerie produise également le même genre de
fait. Stigmatisons quand pas le 9-3. Sur Évry aussi. Hein, sur Évry, il y a eu ce genre de situation au tribunal de l'instance d'Évry. Donc, à un moment donné, il faut mettre les...
C'est quand même... Moi, ce qui m'effraie, si vous voulez, c'est de dire il y a un problème, plutôt que de le régler, on va contourner la difficulté en dépaysant. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. Qui est totalement occulté et interdit parce que c'est la fachosphère, etc., qui est systématiquement appelé pour stigmatiser ceux qui disent le problème. Mais il y a aujourd'hui un sujet de respect de la légalité républicaine dans certains quartiers, dans certaines communes, dans certaines régions. Cette légalité républicaine, elle est contestée par des cultures qui aujourd'hui sont des menaces pour l'intégrité du territoire. Et je pense que la vraie politique, c'est pas seulement de dépayser au cas par cas des dossiers compliqués, c'est aussi à un moment donné de faire un vrai travail de reconquête culturelle pour expliquer qu'en France, les règles doivent être respectées et qu'il y a des questions que s'enquistent des zones de contestation.
Ce sont des mots. Quand vous avez ce qui est raconté dans cet article, c'est-à-dire que des proches des accusés vont s'asseoir près de la partie civile, qu'un juré confie son malaise tout de suite en disant il dit qu'il reconnaît des voisins dans la salle, donc il y a des pressions qui sont là, qu'est-ce que vous voulez faire?
C'est la description de la mise en place d'un système mafieux que vous... Que vous décrivez, Valérie, comme on les connaît dans certains pays, un peu plus au sud de la France notamment. Il y a plein de bouquins ces derniers mois qui se sont interrogés et qui ont même alerté sur l'augmentation exponentielle de la grande criminalité et des circuits financiers opaques un peu partout en France. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple. Souvent, chez les gamins, ils disent « Ah bah tiens, je vais m'acheter le maillot 2 étoiles des Français, je vais le payer 20 balles. » Moi, j'essaye de leur dire « Attention, la contrefaçon auparavant, c'était drôle. » Aujourd'hui, c'est le financement des circuits du terrorisme. D'accord. On le sait. Et cette criminalité financière, elle se développe de manière hallucinante. Je citerai quelqu'un qui travaille avec Alain Bauer, qui ne peut pas voir son nom, qui est un spécialiste, un jeune consultant qui est un spécialiste de ça, et qui, lui, est absolument effrayé par tous ces aspects-là. Système mafieux, augmentation démesurée des systèmes de financement mafieux internationaux. Hein, aujourd'hui, quand vous filez 2 euros à quelqu'un qui fait la manche au pied de votre immeuble, vous devez penser qu'à un moment ou à un autre, il y a quelque chose de structuré qui va financer quelque chose qui peut porter atteinte à cette fameuse légitimité républicaine. Ouais. C'est pas être complotiste que de le dire, c'est aussi organisé que ça. Est-ce que vous décrivez à Bobigny, c'est un des exemples.
Ça concourt de la même chose.
Alors là où il faut pas faire une fixette par rapport à ce qu'on vient de voir avec Bobigny sur ces gros trafics, etc., ce qui gêne le plus les Français, et même dans les quartiers, c'est pas tant le gros trafic, c'est les incivilités.
Oui, aussi,
c'est un vrai problème. J'en discutais avec Castaner ce week-end, parce que j'étais invité en tant qu'expert à la République en Marche. Je suis sans étiquette, attention, hein, s'il vous plaît, messieurs. On en discutait, et c'est un vrai problème. C'est ceux qui emmerdent les Français au summum, les incivilités.
Et alors, il vous dit quoi?
Il y a un plan qui doit se mettre en place. Le problème, encore une fois, arrêtons de penser que la police va tout faire dans ce pays, parce qu'on se plante complètement. C'est l'affaire de tout le monde. Dans les quartiers, il y a des familles, il y a des associations, il y a plein de gens responsables. On l'a vu d'ailleurs il y a pas longtemps avec Clean Challenge, les jeunes qui nettoyaient leur quartier. Ça se fait de plus en plus. Des mamans qui se mobilisent pour empêcher les dealers. Vous allez me dire, ouais, mais l'État, que fait l'État? On paie des impôts. Ok, c'est bien, mais maintenant, la société, elle est comme ça. Il faut que tout le monde participe à la vie de la société. Si on ne fait pas ça, et si on attend tout de l'État, comme toujours, parce qu'on est très fort dans ce pays, et de la police en particulier, on est mort, on n'avancera pas d'un iota.
Allez.
C'est vrai que, voilà, c'est un véritable sujet.
On se retrouve dans un instant, on va parler sécurité routière, GPA. À tout de suite, 0826-300-300, appelez-nous, vous aurez la parole sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble jusqu'à midi, vous pouvez participer sur la page Facebook de Sud Radio, sur Twitter et puis au téléphone 0826-300-300. Hausse spectaculaire de la mortalité des morts sur la route en août, plus 17,9%, près de 18% en plus. Encore le débat à chaque fois ressurgit entre les pros et les anti 80 km/h. Pour les autorités, ce sont les destructions de radars qui sont responsables, entre autres. La hausse de la mortalité concerne tous les réseaux routiers, selon la sécurité routière. Et il y a eu plus de victimes chez les automobilistes, les motocyclistes et les jeunes adultes. En revanche, la mortalité est en baisse chez les cyclistes et stable chez les piétons. Donc, ce sont vraiment les automobilistes. Donc, évidemment, plus de circulation au mois d'août. Et ça reste quand même un problème. Jackie, je crois que vous vouliez aussi en faire votre coup de gueule.
Oui, vous savez, moi, j'ai habité pendant 15 ans dans une caserne de pompiers. Donc, tous ces sujets, ça me fascine. Quand on dit aux gens il faut rouler moins vite pour moins avoir d'accidents, quand j'entends tous ces gens râler, c'est là où je me dis que la politique n'est pas fait pour moi. Et je pense que je suis très solidaire d'Édouard Philippe lorsqu'il a dû garder son calme pour rappeler les gens à un peu plus de tenue. Oui, les radars sont massacrés, les gens ne sont plus attentifs, et on sait très bien quand l'attention n'est plus là, eh bien à la tête de quelque chose qui va peser plusieurs centaines de tonnes lorsqu'elle est lancée, et je ne ferai pas un calcul d'énergie cinétique sur le plateau, eh bien c'est extrêmement dangereux et la mortalité augmente. Voilà. Oui. Après, le problème, c'est de convaincre, et là, je n'ai pas peur de le dire à votre antenne, les gens d'un certain âge, moi, quand j'en parle avec certains des gens de ma famille, au-delà de 60 temps, qui continue à râler sur les radars, expliquer que c'est des usines à PV. Non, des gamins qui meurent, des automobilistes qui sont écrasés. Moi, j'ai des tonnes de photos à la maison, j'ai grandi là-dedans, la vitesse a toujours tué. Rappelez-vous les débats iniques quand on a expliqué qu'il fallait passer de 70 à 50 en ville. Enfin, qui aujourd'hui oserait défendre le fait que 70 en ville avec des gamins qui vont à l'école, c'est pas un acte meurtrier? Je laisse la parole maintenant.
Ouais. En même temps, il faut savoir, je suis complètement d'accord avec toi sur tout un tas de positionnements de radar.
Mais
en même temps,
tu es très macroniste, Bruno, fais gaffe.
Mais depuis 50 ans,
insidieusement.
On m'a donné des éléments de langage. Il y en a qui sont placés, et moi je roule beaucoup, à des endroits, il n'y a pas lieu d'être, c'est. Comme on dit, des radars Afrique. On peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, c'est ça.
Alors je suis complètement d'accord avec Jackie Isabello. Je vais en rajouter. Moi, je pense également, l'idée d'aller dégrader des radars, qui sont quand même des biens communs. Enfin, je veux dire, ils sont payés avec nos impôts. L'idée qu'on soit dans la jacquerie, mais l'idée également, un peu générationnelle, très culturelle, que c'était mieux avant. Hein, que la France de Michel Sardou, où on roulait bourré, où on roulait n'importe comment, et où on ne payait pas ses impôts, c'est quand même le contre-modèle de notre société actuelle. Je pense qu'à un moment, à force de répéter ces éléments de langage sur tous les plateaux de télé, n'importe comment, on donne aussi raison à ces gens qui se conduisent, à ces Français qui se conduisent n'importe comment sur les routes, qui sont de vrais dangers, qui sont des meurtriers en puissance. Et moi, on a suffisamment souffert dans ce pays, dans toutes les familles, pendant les années 80, pendant les années 90, de milliers de morts qui ont laissé des gens dans les cimetières pour ne pas se dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas être un peu responsable quand on prend sa bagnole, ne pas tuer des femmes, des enfants, des hommes. Par ailleurs, on a quand même des véhicules qui ont des régulateurs de vitesse. Moi, je sais pas comment vous faites pour être flashé, hein.
Ça t'est jamais arrivé.
Moi, je mets des régulateurs de vitesse, je suis jamais flashé.
Mais tu fais combien de kilomètres par an?
Surtout, il est parisien, il a la voiture.
Mais non, mais arrêtez, je pars tous les week-ends comme un parisien en Normandie.
Tu fais combien de bornes par an?
Et je suis.
Mais il y a tellement d'embouteillages que tu peux.
Tu fais 5000 km par an.
Mais je me mets à la vitesse. Mais pardon, mais enfin, je fais attention.
Moi, je fais 50 000 bornes par an.
C'est pas difficile de rester dans les clous.
Vous êtes flashé?
Pour gagner quoi? 5 minutes, 10 minutes sur un trajet. Il faut arrêter avec cette polémique qui est là.
Moi, je me suis fait flasher parce que j'ai pas fait attention à un moment ou à un autre. Et je me fais même. Je dépasse d'un kilomètre heure à la fin.
Mais c'est ça.
Mais vous savez.
Et c'est ceux qui emmerdent les Français.
Bruno. Non. À partir du moment où on considère qu'un principe n'est pas fait là pour considérer les exceptions, le principe, à un moment, il est embêtant, mais il permet à un groupe social d'avoir un comportement qui autorise aux autres de vivre paisiblement. De temps en temps, il y a un flic connard qui vous parle mal, c'est pas toute la police qui a... Vous savez, quand je parle de ces choses-là avec des gens qui disent « Oui, ça, là, on l'a mis en place, et regardez, il y a une exception. » Je leur dis « Vous savez, en France, il y a des gens qui respectent pas la loi. » Ça ne marche savez, pas du tout, supprimons non, la loi.
On vient de parler des incivilités.
Me gêne dans
on vient de parler des incivilités. Ne pas mettre son clignotant, c'est une incivilité qui doit être mortelle.
Plus personne ne met de clignotant aujourd'hui. Éric Vérag.
Ce qui me gêne dans ce débat, c'est qu'on est dans une société de la data. Et donc, il serait tout à fait possible d'identifier les causes des 15 000 décès ou des décès supplémentaires cet été. On pourrait très simplement vérifier si on voulait sortir de l'idéologie.
Ça a été fait, ça a été fait par la Ligue de la violence routière la semaine dernière.
L'endroit où sont les morts, est-ce que c'est lié à la disparition des radars
ou pas ? Ils ont transmis
les
données au maire.
D'accord, mais est-ce qu'on peut à un moment donné informer le public sur le lien réel entre la disparition des radars ou le saccage des radars et... les morts sur les routes cet été, parce que c'est quand même ça le sujet. Moi, sur le fond, je suis passé en Allemagne, je n'ai pas le permis, donc je suis très neutre sur le sujet, mais j'ai une épouse qui a le permis. Nous sommes allés en Allemagne cet été. Quand je vois la vitesse avec laquelle roulent les Allemands sans faire plus de morts qu'en France, je me dis... Oui. Moi, je n'ai pas de point de vue dogmatique sur le sujet.
Tu parles des autoroutes, Eric.
Est-ce qu'on peut faire une analyse précise de... Est-ce qu'il y a un lien direct entre la mortalité et la disparition des radars ?
Ça a été démontré. Vous savez quoi, Eric ? Le problème, c'est que celui qui conduit mal, eh ben, c'est toujours l'autre.
Ouais, c'est toujours l'autre.
Celui qui fait mal son boulot, c'est toujours l'autre.
Moi, ce qui m'a frappé,
celui
cet
qui
été
est énarque,
sur les routes.
Finalement, il est quand même un peu con. Moi, je veux bien qu'on mette un énarque et quelqu'un qui n'a pas eu son bac à côté et qu'on se dise, eh ben, écoute, tu nous fais une dissertation, tu nous fais un devoir de maths. Il y a des gens qui sont meilleurs que les autres. Il y a un type là, il a été au raid, eh ben, il fait plus de traction que toi, il garde moins le stress que toi.
Ah, il reconnaît sur la route.
Non, mais si, c'est pareil.
Ce qui m'a frappé sur les routes en France, c'est qu'en effet, il y a une perte de
la responsabilité
qui m'a frappé cet été, c'est une perte évidente de l'éducation à la sécurité routière sur les routes. Moi, je suis convaincu qu'à force d'avoir une politique répressive...
Qui est répressive ? Moi, j'ai fait 600 km ce week-end, j'ai pas vu un flic. Il y en avait assez peu.
Ce qui me frappe, c'est que sur des autoroutes à trois voies, il y a des gens qui roulent à 90 sur la voie du milieu.
Non. C'est pas là qu'il
sans
est
avoir. Non, Eric, ça veut dire que derrière, Eric, il y a une éducation à l'éducation routière qui est.
Oui, mais
c'est
pour le peuple français n'a pas la maturité comme les Allemands pour considérer
cette
discrimination racialiste m'inquiète. Sans séparateur frontal, c'est cette vitesse-là. Et sur certains tronçons d'autoroute, eh bien, vous libérez la vitesse. On n'est pas capable de le faire. Mais alors, le seul exemple, vous le connaissez. On va dans un aéroport, on regarde la file qui fait la queue. Vous cherchez où sont les Allemands, vous cherchez où nous sommes nous. Et j'en suis parti parce qu'en plus, j'ai des racines italiennes. Mais... Alors, vous savez, je pense que j'ai doublement les origines du bordel.
Discours, on explique que les Français sont inférieurs aux Allemands, ça me fait
froid derrière la tête qui, à un moment,
dans leur rapport à l'automobile, bien sûr. Ouais. Et si les seules politiques de sécurité routière qui ont fonctionné, il faut le mettre au crédit de Jacques Chirac, des politiques répressives. Et ben, après tout, j'ai pas de problème. Si ça peut sauver des vies, restons à la répression.
C'est le seul moment où il y a eu une baisse dans la mortalité. C'est effectivement quand Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy a pris le relais, ont décidé d'en faire une cause nationale et plus de répression. Et c'est ce qui a fait baisser. Donc vous êtes très nombreux à ne pas être d'accord. Hein, je le vois sur Facebook. C'est l'éducation, mais l'éducation, c'est l'autre qui est le mauvais conducteur.
Le deuxième point, c'est quand Nicolas Sarkozy a dit maintenant. La complaisance des gens qui ont des copains flics, c'est terminé. Rappelez-vous, Bruno, moi je me rappelle le jour où mes copains flics m'ont dit « Mais non, c'est fini. Les gars, vous arrêtez vos conneries parce qu'on fera plus au télépévé. »
Bruno,
du jour au lendemain,
mes amis, je reste convaincu, moi, quand même, qu'il y a des radars qui sont là pour faire du fric, point final. Alors ça, vous ne lèverez pas de la
bouche. L'exception confirme la règle, je suis d'accord, Bruno.
C'est pas une exception.
Mais est-ce que c'est le sujet aujourd'hui avec cette augmentation de 17%, 18% de morts sur les routes ?
Il y a eu à un moment donné, je crois...
Il y a un relâchement, il y a moins de répression, contrairement à tout ce que vous dites. Il y a moins de répression, il y a moins de radars, et donc
je
ne
pense pas
plus...
que ce soit la raison. Du coup, les radars
détruits, etc. Mais alors pourquoi il y a plus de morts sur les routes ?
Il y a plus 18%
de conduite.
Mais pourquoi ce comportement ? Pourquoi est-ce qu'on relâche le comportement ?
Beaucoup plus de monde conduisent dans cette période.
Il y a peut-être
tout un élément qu'il faut prendre en
considération. Non, le 18%, il est en proportion.
La pire des choses, c'est les gamins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant, dans une voiture, voit son père rouler bourré, rouler vite, insulter les gens, a des comportements violent au volant. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il a son permis ? Il se permet de se... Et les catastrophes, moi, j'ai vu mon père, ses copains rentrer traumatisés tous les week-ends et qui me disaient, tu rentres pas à 4h du mat, parce qu'à 4h du mat, c'est là où se font tous les accidents. Parce que les gamins, à 18 ans, ils se considèrent surpuissants quand ils sont adolescents, dès qu'ils ont le permis bourré, alors qu'ils viennent de se taper une nana et qu'ils rentrent avec leurs copains, c'est-à-dire le bonheur total, eh bien, ils se tuent en voiture. Et ça a fait des drames. Et je peux vous savez comment il faut faire ? Moi, je veux bien recevoir que les gens m'envoient leur mail et je vais leur faire un stage où je vais leur montrer toutes les photos qu'il y a dans les casernes de pompiers. Toutes les photos. Et je peux vous dire qu'en un quart d'heure, je vais les vacciner contre tous les discours stupidissimes. Pardon pour les auditeurs. Comme quoi, il faudrait laisser un peu de tolérance. Non, la voiture, ça tue.
On a Patrice en ligne avec nous. Bonjour Patrice.
Bonjour.
On vous écoute.
Bah écoutez, j'entends votre auditeur qui a employé le mot stupidissime. Mmh. Et justement, j'étais en train de chercher un mot pour qualifier le débat que j'entends depuis quelques minutes. Oui, votre débat, monsieur, est stupidissime. Les hommes ont le droit de vivre, mais ont aussi le droit de mourir. Moi, ce que je trouve vraiment dérangeant...
Mais pas tuer les autres, monsieur. Ils tuent les autres, les gens qui font les infractions routières.
Oui, mais a priori, je pense qu'à un moment donné, tuer les autres, vous êtes vivant. Moi, j'aimerais entendre, au lieu d'entendre ces gourous de l'apocalypse autoroutier ou des radars, etc., ces familles qui sont endeuillées, l'État, avec le concours de discours comme le vôtre, on a quand même 39 millions de véhicules, hein, ce ne sont pas mes chiffres, hein, c'est le chiffre du comité des constructeurs français d'automobiles. 39 millions de véhicules sur les routes, aujourd'hui, il y a 4000 morts. Bien, c'est toujours 4000 de trop, on est d'accord. Aujourd'hui, il se trouve que les gens ont envie de vivre. Et vivre, accepter de vivre, c'est accepter de mourir aussi d'une certaine manière. Et l'État a son rôle à jouer de mettre en place les éléments de sécurité qui permettront aux Français de rouler de manière la plus sécuritaire possible. Mais de là, aujourd'hui...
Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, concrètement ?
C'est-à-dire, concrètement, c'est que, par exemple, moi, j'ai eu un accident il y a 3 ans. J'étais fauché par un type, un ancien pompier, par ailleurs, qui avait un taux d'alcoolémie incroyable. Ouais. Parce que le cynisme de ce débat, c'est de parler de la vitesse, mais c'est de ne pas parler des effets des médicaments.
Bien sûr, de l'alcool.
Et du traitement en train de son véhicule, mais on parle que de vitesse.
Du téléphone, des comportements.
C'est normaux, monsieur.
Allez-y, Patrice.
S'il vous plaît, je termine. Ouais. On ne parle que de vitesse parce qu'on est dans un espèce de lobbying dégueulasse dont nous, les Français, nous sommes le repas de ce genre de débat et de l'État. Car on parle que de vitesse, on parle pas des effets des médicaments. Quand vous êtes sous traitement et que vous prenez votre véhicule, ça peut avoir des incidences. On ne parle pas de l'alcool. Moi, j'ai été fauché par un type.
Pardon, Patrice, c'est que si vous prenez des médicaments et que vous tuez quelqu'un ou que vous vous tuez, c'est que vous allez un petit peu vite. C'est-à-dire que vous allez à la vie.
Quand je disais que les gamins voient leur père bourré au volant.
Aujourd'hui, l'absence, car l'État n'en a rien à faire au fond de m'exprimer, c'est que moi, quand j'ai dû porter plainte contre ce monsieur, j'ai pas demandé de dommages et intérêts, parce qu'au fond, je l'ai excusé. Je l'ai excusé parce que c'est un homme, c'est pas une machine, c'est pas un robot, c'est pas un ordinateur, c'est un homme. Eh bien, moi, j'ai regretté, je regrette encore aujourd'hui, de ne pas avoir porté plainte contre l'État et contre la société d'autoroute, parce que tout est privatisé. Quand on est en mesure de mettre en place des systèmes de paiement sur les autoroutes pour qu'on paye en carte bleue ou en espèces, on est aussi capable de mettre des oscillotests avant qu'on rentre dans l'autoroute, c'est-à-dire
on peut pas contrôler tout le monde sur la route.
Matériellement, c'est possible. Si tout le monde paye, c'est qu'on peut contrôler tout le monde. Quand vous arrivez avec votre véhicule et que vous devez payer pour avoir votre ticket d'autoroute, on peut vous faire souffler à ce moment-là. Ben, si c'est pas vert, vous ne pouvez pas passer. Parce que si vous êtes trop alcoolisé, vous ne prenez pas l'autoroute, parce que pour moi, je ne crois pas, et on a l'exemple allemand, que c'est que la vitesse qui pose problème. Je pense que les personnes qui prennent les autoroutes où on n'a pas mis en place un système rotatif, je souffle, je suis bien, je peux passer. Si j'ai un taux d'alcoolémie trop fort, je ne passe pas. Mais la seule solution qu'a trouvé l'État aujourd'hui, c'est de se faire 4 milliards d'euros par an sur le dos de ces pauvres malheureux qui sont morts. Combien les familles touchent de cet argent ? Combien les familles endeuillées touchent Ouais. C'est 4 milliards
c'est pas la faute de
l'autoroute.
Non,
fait.
C'est pas la faute de. Ouais.
Voilà. C'est pas la faute d'accord, de la compagnie d'autoroute.
D'accord, on vous a entendu. Merci, merci à vous. Il y a Pierre Chasseret également qui réagit, qui trouve que notre débat, il entend beaucoup de contre-vérités. Je pense que ce sont des débats qui sont toujours extrêmement clivants et qu'on a du mal à se.
Curieusement,
non, parce que. Enfin, c'est un petit peu ce que disait Jackie, le mauvais conducteur, c'est l'autre. Les raisons des uns ne sont pas celles des autres. Et quand des experts avancent des hypothèses, ceux qui sont contre les démontrent. Donc c'est très très compliqué. En tout cas, ce qui n'est pas admissible, c'est qu'il y ait eu encore 300 morts de plus sur les routes cet été, 20% d'augmentation. Il va bien falloir qu'il se passe quand même quelque chose.
Et on n'est pas, on n'est pas encore une fois, parce que Pierre Chasseret fait un travail formidable, je trouve, pour défendre cet outil indispensable. On n'est pas anti-automobiliste. Mmh. C'est pas ce truc-là. C'est qu'à un moment, il faut se dire qu'on s'autorise des comportements. Et je termine juste avec un exemple. Regardez, on a inculqué aux gens la sécurité routière et certaines règles. Eh bien, dès que vous les déportez et vous leur donnez, par exemple, une trottinette électrique, eh bien, qu'est-ce qu'ils font mécaniquement ? Ils reproduisent des choses alors que à la tête de leur véhicule, avec leurs enfants derrière, ils ont été bien éduqués. Dès lors que vous leur donnez un autre outil, eh bien, ils sortent des comportements normaux. Ça, c'est naturel et la société, elle doit contraindre ça. Et je pense qu'il faut être extrêmement pointu parce que ça sauve la vie des gens. Et ce qu'a dit votre interlocuteur tout à l'heure, parlant d'avoir ce débat stupidissime, s'il le trouve, mais tous les comportements anormaux, il faut qu'on soit en capacité de s'auto-réguler pour pas faire ce qui est arrivé à ce monsieur.
Ça s'appelle le civisme.
On se retrouve dans un instant, on va parler de la GPA. Est-ce qu'il faut reconnaître la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger ?
Ça va être la bagarre.
Visiblement, mais je ne sais pas, vous serez peut-être tous d'accord, je ne sais pas. La filiation des enfants donc serait bientôt reconnue en France. On attend vos réactions. 0826-300-300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, le débat continue. 0826-300-300 avec Bruno Pomard, maire de Belflou, Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Donc, est-ce que c'est un, ce qu'on aurait appelé à l'époque de Hollande un couac parce que ce matin, on a entendu sur une radio concurrente que la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger serait bientôt reconnu en France, mais le porte-parole du ministère de la Justice dit que ce n'est pas dans la loi, sauf que visiblement, ça passerait par une circulaire. C'est-à-dire qu'avant, quand vous étiez parent d'un enfant né par GPA, ce qui est strictement interdit en France, mais que, évidemment, beaucoup de gens, beaucoup de couples, en particulier les couples homosexuels, ont recours à cette méthode pour avoir un enfant, vous deviez aller au tribunal pour faire reconnaître la filiation aujourd'hui. Enfin, ça deviendrait donc automatique. Donc, énorme hypocrisie. Quoique, déjà, on peut commenter les deux. Quoique, hypocrisie, on a un petit peu de mal à comprendre, Nicolas Corato.
Oui, alors, sur ce sujet, le gouvernement essaye d'échapper à la tempête, d'éviter la tempête qui se propage, qui se profile à l'horizon, mais il va avoir du mal. Donc effectivement, ce matin, un scoop sur une radio qui prévoit une circulaire ministérielle pour régler la situation des enfants nés à l'étranger de GPA. Et puis, dans la matinée, le porte-parole qui dément. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut éviter de mettre la GPA dans le débat parlementaire sur les lois bioéthiques. Donc il fait tout pour que le sujet de la GPA, qu'il faut régler juridiquement, parce que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, que ce sujet-là n'arrive pas au Parlement. Parce que par ailleurs, il y a énormément d'amendements qui ont été présentés par des parlementaires de tous bords, y compris à l'REM, pour introduire le sujet de la GPA dans la discussion sur les lois bioéthiques qui va également concerner la PMA. Donc on a un gouvernement qui essaye peut-être de passer par l'extérieur, par une circulaire ministérielle, qui n'a pas une valeur législative, hein, c'est un acte administratif, une circulaire ministérielle. Sachant, c'est quoi l'état du droit aujourd'hui ? Il est assez clair, l'état du droit aujourd'hui. Il dit qu'en gros, si vous êtes parent né, si vous avez un enfant né d'une GPA à l'étranger, vous pouvez l'inscrire sur les registres de l'état civil en France avec son père et sa mère biologique, au pluriel. Donc, le droit français reconnaît un droit à la filiation pour un enfant né de la GPA, et c'est tout à fait normal qu'un enfant ait droit à une filiation, mais le droit français dit, bah on va prendre en compte sa mère biologique, c'est-à-dire celle qui a porté l'enfant, quelle que soit la convention qui ait été passée avec cette mère porteuse, et parfois une convention qui prévoit une clause de confidentialité, c'est-à-dire qu'on interdit à la mère porteuse de donner et de révéler qu'elle a porté tel enfant. Donc aujourd'hui, voilà l'état du droit, moi qui me semble assez clair et qui a été posé par la Cour de cassation. Le gouvernement peut être tenté d'aller un tout petit peu plus loin. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe pour les parents non biologiques, ceux qu'on appelle ceux que les
tendants, ceux qui
les pères et mères d'intention. C'est comme ça qu'on les appelle quand on défend la GPA. Eh bien, finalement, pour être reconnu comme père ou mère, il faut tenter l'adoption. Et effectivement, l'adoption, ça prend du temps.
Ça prend du temps.
C'est pas évident, c'est pas gagné d'avance, notamment pour les couples non mariés. Mmh. Et donc, effectivement, c'est embêtant. Mais la question, c'est est-ce que c'est parce que c'est embêtant qu'on va devoir reconnaître une nouvelle filiation qui naît d'un acte marchand, puisque le vrai problème, c'est que la GPA, c'est un acte marchand.
Oui. Mais enfin, la question, c'est est-ce que reconnaissant la parentalité d'intention, on va renoncer à la parentalité biologique? Et c'est là que va se placer le débat, parce qu'en réalité, le sujet, c'est est-ce que l'enfant, on va dire, vous êtes née d'une mère biologique, Madame Bidulette, en Colombie ou je ne sais pas où, mais vous avez deux pères ou deux mères, qu'importe. Ou est-ce qu'on va lui dire simplement, vous avez deux pères et on fait l'impasse sur la maternité biologique? Ça va être ça, le fond du débat. Et aujourd'hui, la particularité, c'est qu'en effet, en mettant le doigt dans la reconnaissance de la parentalité par GPA à l'étranger, on tue ce faisant les dispositions de la loi PMA qui prévoit, ou en tout cas qui essaye de limiter la marchandisation des gamètes, comme on dit, c'est-à-dire de la procréation, puisqu'en réalité, on aura le choix en France avec une procréation médicalement assistée qui sera restrictive, et on aura la faculté d'aller, je vais faire de la provocation et Nicolas me corrigera, on aura la faculté d'aller acheter des gamètes d'un beau blond aux yeux bleus avec un QI de 150 aux États-Unis ou je ne sais pas où, et ça aura les mêmes effets juridiques.
Personne là.
Et donc, quand j'étais chevelu...
C'est raté pour tout le monde.
Pas blond, pour tout le reste, on est à peu près comme ça.
Et donc, le sujet, c'est qu'en effet, concurremment à la loi qui se veut protectrice et opposée à la marchandisation, on ouvre un dispositif qui, par l'effet de la concurrence internationale, on va mondialiser la PMA française en reconnaissant la filiation à l'étranger. Ce qui est, à mon avis, le débat de fond qu'il faut poser en France.
Mais on est d'accord. Pour moi, le débat, c'est la marchandisation.
C'est pas la filiation, c'est la gamète ou pas.
Sauf qu'on veut éviter le débat. C'est ce que vous disiez, Nicolas, aussi. Jackie, Isabello.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces sujets. J'essaye de ne pas trop rentrer dedans. Je vais faire un petit pas de côté. Il y a Barbara Stiegler qui vient de sortir un bouquin qui est une philosophe et qui dit les sujets biologiques sont assez peu présents dans la politique française alors qu'ils le sont énormément aux États-Unis parce que ça provient notamment d'une digestion des théories darwinistes. Et donc, par ce qui s'est passé pendant la guerre, on a beaucoup de mal en France à traiter ces sujets-là, même s'ils sont de plus en plus présents. Alors, j'ai décidé toujours d'avoir un avis uniquement économique sur ce sujet-là, et je me permettrai de vous le livrer, parce que c'est vrai qu'il est assez peu traité. En France, on dépense 700 milliards pour assumer, et moi je suis tout à fait favorable à ça, nos dépenses de santé, de protection sociale, protection des retraites, etc. etc. Et d'une manière ou d'une autre, si on peut permettre que des couples qui doivent à un moment faire des enfants pour pérenniser ce système, ces couples-là ont des enfants, d'un point de vue économique, moi, ça me satisfait bien. Ouais. Sur les aspects idéologiques, éthiques, par ailleurs, c'est toujours une confrontation entre différentes théories, d'un côté dites laïques, de l'autre côté religieuses, et j'ai beaucoup de mal. Donc si on pouvait, de temps en temps, un peu plus parler d'économie, et que ces couples qui ne pourraient pas avoir d'enfants, s'ils peuvent en avoir, et beaucoup, pour pérenniser un système qui a besoin d'argent et qui est très important en France, eh bien, si on devait garder que ça, moi, ça me convient bien.
Ouais. Bah, écoutez, on va voir comment. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal, ce que évoquait Nicolas Corato, y voir clair dans les intentions du gouvernement à ce sujet, ne pas vouloir faire le débat tout en même temps. C'est du en même temps, tout en contentant ces couples qui aujourd'hui ont recours à la GPA. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff que vous retrouverez. Il va revenir sur les propositions d'Agnès Buzyn avec le docteur Cron. Voilà. Et